Écrit par Gustave Le Nôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, chapitre 7, Le Rougif. La Révolution a donné naissance à certaines figures dont la psychologie déconcerte toute analyse. En supposant que par fanatisme politique, on arrive, non pas à excuser, mais à expliquer Robespierre, Saint-Just ou Le Bon, il est d'autres hommes dont la physionomie restera, à tout jamais, incompréhensible et répugnante. Tel, par exemple, le savetier Simon, auquel échut l'odieuse mission de torturer un enfant de 8 ans. Tel le conventionnel Lesquignot, qui forçait les enfants de ses victimes à marcher dans le sang de leur père. Tel le député Javogue, qui se montrait nu dans les rues de Feur pour rappeler à ses administrés la simplicité antique. Tel Hébert, l'inventeur et le rédacteur de cet épouvantable Père Duchesne qu'on ne peut, après 100 ans, feuilleter sans frémir. Armand Benoît Joseph Guffroy a droit à une place d'honneur dans cette galerie de monstres. Compatriote de Robespierre et de Le Bon, il avait été nommé procureur syndic du district d'Arras. Député à la Convention, il demanda, lors du procès du roi, que pour punition de ses forfaits, Louis Capet, comme tout autre criminel, périt dans les 24 heures sur un échafaud, revêtu des habits ci-devant royaux. Ce n'était là que le prélude. Après la mort de Marat, on vit Guffroy continuer sous un nouveau titre, mais avec la même violence, le journal rédigé par cet être immonde. Le Rougif, anagramme du nom de Guffroy, était spécialement destiné à fanatiser l'armée. Son premier numéro parut en juillet 1793. Cette feuille avait reçu les encouragements pécuniaires de la part du gouvernement. Sur les fonds du ministre de la Guerre, Bouchotte avait pris 5 000 abonnements de Rougif. Duquesnoy avait souscrit pour 600 et les commissaires de l'armée du Nord pour 3 000. Et c'était de la belle et bonne littérature révolutionnaire, comme on peut le croire. Quelques extraits de ce journal feront connaître Guffroy qui va être appelé à entrer en scène dans l'histoire que nous racontons. Tous les complices de la cordée n'ont foutre pas été rasés. Non, foutre, car il faut bien jurer. Ça soulage. Non, foutre, les compliments de cette guenon n'ont pas tous été rasés comme elle. Ils le seront, pas vrai, Charlot ? Allons vite, allons que la guillotine soit en permanence dans toute la République. Tribunaux à l'ouvrage. Remède républicain, convention nationale, peuple français, veux-tu être paisible? Montre-toi terrible à tes ennemis, écrase tous ceux qui s'opposent à ton bonheur, fais qu'ils se taisent ou qu'ils périssent. Y en eut-il quelques millions? Le bonheur de la majorité doit l'emporter. La République française aura encore assez de 20 millions d'habitants, ennemis des rois, des intrigants, des prêtres et de tous les dévorateurs de l'espèce humaine. Le fluide du corps politique était vicié. On ne le purge pas, on le fait couler, c'est le seul remède. Je sonne le tocsin sur tous ceux qui voudraient savonner le général Moustache. On a beau faire, il faut que le rasoir national en fasse une prompte justice. À Rome, sur une de ses lettres, la hache du licteur lui aurait fait rouler la tête. Vite, vite, qu'on le fasse jouer à Colin Maillard avec la guillotine. Je vois chaque jour se préparer et s'avancer la formation des vertus républicaines. Mais pour arriver au bonheur que je présage, que l'écurie a balayé, il y en a une au moins dans chaque famille française. À bas, à bas, guillotiner, guillotiner tous les traîtres, chasser loin du territoire français tous les adhérents de la trahison. Pourquoi la Vendée existe-t-elle encore? Manière de la détruire, faites une battue de bêtes féroces. Je le répète, c'est une battue de bêtes féroces qu'il faut faire, jusqu'à ce qu'on promène dans toute la France la tête du dernier des scélérats qui compose l'armée catholitico-royalo-scélérate. Haro, haro, haro et toujours au pas de charge. Mais lorsqu'il apprend que Marie-Antoinette est transférée à la conciergerie, que son procès est proche, sa joie devient délirante, sa prose sanglante se fait lyrique. Que dirons-nous du décret relatif à Marie-Antoinette, la tigresse? Ah, parlons, mes amis, parlons. C'est ça un décret. Oui, foutre, il est énergique, celui-là. Là, ci-devant reine va être jugée comme une sans-culotte. Voilà de l'égalité, ça. Eh bien, ce sera encore mieux égal quand elle aura essayé le collier de l'égalité. Ça ne coûtera pas si cher que le collier Rohan. La pauvre femme, elle aimait si fort son gros con qu'elle a voulu le suivre jusqu'à la mort. Ah, mille bombes, ça fait quasiment rire. Cette Autrichienne a voulu tâter du capet. Eh bien, elle en tâtera jusqu'au bout. C'est foutre. Pourquoi diable aussi vouloir être Madame Capet? Capet? Ah, dame plus de Capet. Dès l'origine, ces Capets avaient la tête trop grosse. Eh bien, tête à bas, Madame Capet. Tel est le prononcé de la conscience du jury national. Je n'ai pas peur d'être démenti. Je sonne mon tocsin à toutes les oreilles françaises sur l'infernale Marie-Antoinette. Elle apparut à la conciergerie avec l'insolence de la pute de Jupiter. Ces bordels de dieux de l'ancien temps ont une marque incorrigible. Il n'y a que la guillotine qui puisse effacer leurs grimaces et les empêcher de nous faire la figue. On l'amène, alerte, craque, que tout soit dit. Ne nous laissez pas berner par une idée brisotine que l'on voudrait réchauffer. Gardez Marie-Antoinette pour faire la paix, vous dit-on sourdement, et moi je dis, faites-lui faire le saut de carpe en avant, les mains derrière le dos. Qu'on nous pardonne cette réflexion, mais ces stupéfiantes strophes touchent presque au grandiose, tant est vive l'horreur qu'elle inspire. Ces courtes phrases hachées avec un art infernal, ce style tranchant comme le couteau de la guillotine, sont si loin de la rhétorique ampoulée et redondante à la mode en 1793 qu'on ne peut s'empêcher de leur trouver une sorte de beauté farouche et terrifiante. Mais la reine est condamnée, elle est morte. Son oraison funèbre, écrite par le Rougif, nous a conservé quelques détails curieux sur l'attitude du peuple de Paris, voyant conduire à l'échafaud la princesse que jadis il avait tant adulée. Un mot sur le supplice de Marie-Antoinette. Le ciel a souri à cet acte de justice, et j'aurais voulu qu'imperturbable, comme le destin, le peuple français eût été tout à fait grand ce jour-là. Quel spectacle imposant qu'eût été celui de voir passer cette femme avec deux gendarmes et l'exécuteur de la volonté du peuple. Cet isolement eût prouvé à mes yeux que la France était bien régénérée. Je ne m'étonne pourtant pas de l'affluence qui s'est trouvée partout sur le passage de cette femme. Il est bien naturel d'éprouver quelque satisfaction, de voir exterminer la cause de tous ces maux. C'eût été une chose intéressante à voir que le spectacle d'une reine conduite au supplice au milieu de la satisfaction silencieuse d'un grand peuple. Et l'on en aurait joui sans la sotte pétulance, sans l'imbécile consigne donnée par je ne sais quel plat despote d'empêcher les hommes d'être à leur croisée avec leurs femmes et leurs enfants. Cette sottise prolongée a tout troublé. La majesté du peuple a été éclipsée par ce bruit bête et insolent. Ah bah, ah bah, il y avait même de ces machines à consigne qui obligeaient les citoyens à ôter leur chapeau. Cette tigresse n'est plus, mais gare les tyrannos. Comment se fait-il que ces pages hideuses, suffisantes pour souiller une éternelle infamie la mémoire de leur auteur, n'aient pu le protéger contre l'accusation de modéré portée contre lui à la tribune des Jacobins? L'histoire de la Révolution a de ses dessous inexpliqués. Comme il ne me coûte aucunement de soupçonner Gufroy de toutes les bassesses et de toutes les lâchetés, je pense, sans crainte de porter un jugement téméraire, que les gens bien informés d'alors acquirent la certitude qu'ils s'étaient laissés acheter par les dantonistes. Et voilà qui expliquerait comment, après avoir clamé à tous les échos qu'on pouvait guillotiner 15 millions de Français, que la France aurait assez de 20 millions d'habitants, le Rougif devint tout à coup partisan de la clémence et de la modération. Si l'intérêt pécuniaire n'opéra pas cette conversion, c'est à la peur qu'il faut l'attribuer. Aucun sentiment élevé, aucune opinion sincère ne pouvant être raisonnablement invoquée lorsqu'il s'agit d'un homme tel que Gufroy. Cette énergumène, chassé des Jacobins comme contre-révolutionnaires, déclare aussi aux terroristes une guerre de brochures et de pamphlets et s'attaque particulièrement à Le Bon, le bourreau de l'Artois, qu'il trouvait tiède quelques semaines auparavant. Il le dénonce comme un despote, un tyran sanguinaire. Il retourne contre cet ancien ami les métaphores meurtrières qu'il décochait jadis à la reine. Cette attitude lui valut la vie sauve aux neuf Thermidor. Il était passé à temps du camp des terroristes cyniques au camp des terroristes hypocrites. Ceux-ci ayant la victoire, il jugea opportun de se ranger définitivement sous leur drapeau. Et le voilà qui se signale comme un des plus fougueux réacteurs, ayant eu soin de se faire nommer membre de la commission chargée d'inventorier les papiers de Robespierre. Il en profite pour anéantir les pièces qui constateraient ses propres friponneries. Il ne parlait jamais, d'ailleurs, que de son intégrité, de sa conscience et de ses vertus. Tel était l'homme que le héros de ce livre allait trouver sur sa route. Mais avant de conter ce qu'il advint de leur rencontre, il n'est pas inutile d'esquisser en quelques mots la situation dans laquelle Rougeville retrouva la France lorsqu'il revint de l'étranger. D'abord, il eut l'illusion, commune alors à tous les royalistes, que la Révolution était terminée et qu'une restauration était proche. À l'enthousiasme, réel ou factice, de 1789 et de 1792, avait succédé la lassitude et le découragement. Tous ces hommes, qui depuis le 10 août se succédaient au pouvoir et dont quelques-uns avaient apporté au gouvernement du pays des mœurs de détrousseurs de grand chemin, n'avaient, avec tout leur génie, amené qu'un résultat : la France mourait de faim. Jamais nation ne fut plus misérable. À Paris, le pain coûtait jusqu'à 25 sous la livre et les assignats n'y donnaient point droit. On passait les nuits devant les boutiques des boulangers. L'hiver, on s'entassait aux portes des sections. Le voyageur qui partait de Paris ne pouvait même pas emporter une livre de pain. On ramassait au coin des rues de pauvres gens tombés d'inanition. Des pères de famille sciaient devant leurs portes leur bois de lit pour se chauffer. Les journaux étaient remplis de recettes économiques pour faire des pains de racines, des bouillies de choux et de patates. Volney enseignait les façons de faire cuire le riz usité en Asie et invitait les Parisiens à se modeler sur les parias de l'Inde. La province n'était pas plus heureuse. Dans les contrées riches de la Meuse, la ration des ouvriers était réduite à un quart de livre de pain par jour, celle des femmes et des enfants à moitié. Un fonctionnaire écrivait « Depuis 8 mois, le peuple mangeait du pain qui répugnerait à l'animal le plus immonde. Il est réduit aujourd'hui à regretter cette détestable nourriture. Les thermidoriens accusaient de cette situation les montagnards. Les montagnards la reprochaient aux thermidoriens. Tous deux avaient raison. La cause de cette misère n'était autre que la révolution elle-même, et le peuple qui le comprenait ne cachait pas ses regrets de l'ancien régime. En dépit des lois, les églises se rouvraient. La foule se faisait compacte autour des autels où l'on disait la messe, et bien des fois, on y entonna le vieux plein chant « Domine salvum fac regem ». Le pays affamé, appauvri, anémié, comprenait enfin qu'on l'avait dupé et que tout était à refaire. Et voilà comment le peuple se précipita avec tant d'ardeur à la suite du général qui, lui montrant les riches plaines de la Lombardie, eut l'audace de crier « Tu es sans souliers, sans vêtements, sans pain, l'ennemi a tout cela, allons le lui prendre ». Mais au commencement de 1795, personne ne prévoyait cette solution. L'idée d'un pouvoir monarchique nouveau, issu de la Révolution, n'était venue à personne, pas même sans nul doute à celui qui devait la réaliser. Ceux qui ne croyaient pas à l'avenir de la République mettaient leur espoir dans les Bourbons. Bon nombre de citoyens que 1789 avait séduits souhaitaient maintenant le retour des princes et désiraient avant tout le calme, source de cette prospérité. Aussi les partisans de Louis XVII relevaient-ils la tête. Non seulement ils ne se cachaient plus d'être royalistes, ils s'en vantaient, et l'on peut juger que Rougeville ne s'en priva pas. Il était de ceux qui, prenant leurs désirs pour des réalités, clamaient déjà « Fini républicain ». Ceci explique comment sa nature ardente, irréfléchie, lui fit commettre une grave imprudence. Dans les derniers jours de Thermidor, août 1795, il rencontra aux Tuileries le conventionnel Gufroy qui se rendait à l'Assemblée. Il avait connu jadis Gufroy à Arras, où celui-ci était avocat. Le Rougif était même pour une somme assez forte le débiteur du père de Rougeville. Les deux hommes se reconnurent, allèrent l'un à l'autre et causèrent. Rougeville, sans méfiance, avec son imperturbable aplomb, raconta complaisamment toutes ses aventures. Il dit comment il avait jadis tenté de sauver la reine, par suite de quelles circonstances avait échoué son projet. Il avoua, sans se faire prier, qu'il était passé à l'étranger et que, sûr maintenant de l'impunité, puisque la faction des indulgents était au pouvoir, il était rentré à Paris, où il habitait rue du Parc, sous un faux nom. Gufroy, lui, ne se livra pas. Il songeait. Il songeait que celui qui se confiait ainsi naïvement était l'un de ses plus importants créanciers. Que le père Rougeville, usé par l'âge et par la prison, car il avait été détenu à Arras pendant le proconsulat de Lebon, ne vivrait plus bien longtemps, et que si le fils disparaissait aussi, sa dette à lui, Gufroy, se trouverait liquidée. Le résultat de ces réflexions fut qu'au lieu de se rendre à la Convention, il se dirigea, dès qu'il eut serré les mains à Rougeville, vers le comité de sûreté générale. Il entra dans les bureaux, et là, sur une feuille de papier en tête du comité, il rédigea une dénonciation présentant Rougeville comme un dangereux conspirateur, déjà arrêté au 31 mai, pour avoir contribué aux événements de ce jour, recherché sans succès après l'affaire de l'œillet et s'étant rendu depuis lors près des ci-devant princes en émigration. Le soir même, Rougeville était enfermé à la prison des Orties, maison d'arrêt située au Carrousel et réservée spécialement aux prévenus arrêtés par ordre du comité de sûreté générale. L'interrogatoire que lui fit subir le lendemain le citoyen Jean Almain, l'un des chefs du bureau des déclarations du comité, section de la police, interrogatoire que Rougeville lui-même nous a conservé, prouve à lui seul combien les choses avaient changé depuis la Terreur. Sans doute le prévenu, en le publiant, a quelque peu arrangé les réponses et s'y pose à l'adresse de la postérité en chevalier du malheur. Cependant, certains passages de cette pièce sont à citer, car il y revient sur l'affaire de l'œillet et y donne de curieux détails qu'il a cru devoir embellir malheureusement de son entrevue avec Marie-Antoinette. « Êtes-vous noble ?» lui demande le citoyen Almain. « Je le suis, » répond Rougeville, « par mes services militaires. » N'étiez-vous pas attaché à la maison de Louis Capet? Depuis 1789, je n'ai point quitté d'un instant le roi et la reine. Interrogé ensuite sur ses relations avec Michonis et sur la façon dont il était parvenu jusqu'à la reine, il reprend sur un ton assez théâtral. Puisque Michonis l'a avoué et que la reine l'a approuvé, je vous dirai qu'il m'a procuré cette entrée et cette entrevue. Quant au contenu de mon billet, je disais « Je vous suis toujours resté fidèle. Je viens de rassembler mes derniers débris de ma fortune, le reste de ma maison, et relever tout mon courage pour tâcher d'aplanir toutes les difficultés et les obstacles qui pourraient nuire à l'entreprise de votre évasion. Mais aidez-moi. » Et quelle a été sa réponse ?« Fuyez, me dit-elle. Votre témérité me fait frémir et je vous prie de ne point vous compromettre. D'ailleurs, faible, épuisé comme je le suis, en quoi puis-je vous aider? Encore quelques moments et la nature va épargner aux hommes le dernier des crimes. Ce n'est point le danger de ma vie qui me touche, ajouta-t-elle. Un intérêt plus cher touche mon cœur. Mes enfants sont le sujet de toutes mes inquiétudes. Dérobez-les, si vous le pouvez, aux fureurs de mes assassins. Alors vous les confierez à leur destinée. Allez, amis rares, qu'ils vous souviennent surtout qu'ils n'accusent jamais le saint qui les a portés, et sachez qu'il faut que de ces lieux d'horreur, où la douleur succombe, que vous traciez mes malheurs à la postérité. Que l'avenir les lise, que l'univers en frissonne, et que tous les rois en soient épouvantés. Oui, près de toutes les nations, sachez peindre mon état, mes souffrances et mon courage. Au moins de tout cœur plein de vertu et de sensibilité, j'exige quelques pleurs pour hommage. Et voilà l'étonnant discours que Rougeville prêta à la reine. D'ailleurs, ce n'était pas pour entendre cette prétentieuse homélie que le citoyen Almain avait entrepris son interrogatoire. Avoir tenté de délivrer Marie-Antoinette n'était plus, en 1795, un crime impardonnable. Le véritable grief porté contre Rougeville était le soupçon d'émigration. L'accusé n'était pas de ceux que l'on prend sans verre. Sa réponse était toute prête et il débita avec assurance la liste de ses domiciles à Paris qu'il se défendit d'avoir quitté un seul jour depuis 1790. Cette année, il l'avait passé rue Jacob, au 14. Puis, il avait été logé en qualité de garde de monsieur au palais du Luxembourg, qu'il avait quitté que le 15 mars 1792 pour se mettre en garni, rue du Bac, hôtel de la correspondance. Du 3 juin au 10 août 1792, il avait habité le château ou l'hôtel meublé des Tuileries, rue Saint-Honoré, au 75. Après la victoire du peuple, il avait erré pendant quelques jours de maison en maison, puis avait été enfermé à la prison de l'abbaye d'où il était sorti, il était temps, l'avant-veille des massacres. Il s'était réfugié alors au Marais, à l'hôtel Soubise, puis avait passé le premier semestre de 1793 rue Poissonnière au numéro 6. Enfermé ensuite pendant un mois à Madelonnette, d'où il était sorti miraculeusement, il ne s'expliquait pas davantage. Sans doute, l'argent de Madame Atkins avait-il puissamment aidé à sa mise en liberté. Il avait accepté à Vaugirard l'hospitalité de la citoyenne Dutilleul. Il avouait qu'après l'affaire de l'œillet, il avait disparu pendant un mois. Les carrières de Montmartre lui avaient servi d'asile. Octobre 93 au 20 avril 1794, le citoyen de la Tour, docteur en médecine, rue des Barrets Saint-Paul, l'avait hébergé. Puis il était passé chez Giroir, imprimeur, rue du Bout du Monde, au numéro 154, où il était resté jusqu'au 15 mai 1795. Depuis lors, il habitait sous un faux nom, rue du Parc, numéro 135. Débité avec une imperturbable audace, cette nomenclature pouvait faire impression. Malheureusement pour Rougeville, il avait affaire à un fonctionnaire consciencieux et ordonné qui ne crut pas pouvoir accepter sans contrôle les assertions de l'inculpé. On le ramena donc à la prison des Orties et la police fut chargée de vérifier la vérité de ses déclarations. Ce ne fut pas une mince besogne. Le monde s'était transformé depuis 3 ans. Les hôteliers avaient fait faillite, les immeubles avaient changé de propriétaire. Les témoins possibles étaient disparus, ou morts, ou ruinés, ou émigrés. Ceux qu'on pouvait rencontrer ne parlaient pas, craignant de se compromettre. Et puis, il est probable que Rougeville avait indiqué des résidences qu'il savait ne pouvoir être facilement contrôlées. Ainsi, le citoyen de la Cour, chez qui il prétendait avoir habité du 6 octobre 1793 au 20 avril 1795, resta introuvable. Giroir avait été arrêté, mis à mort 2 mois avant l'arrestation de Rougeville. On le mit donc en demeure de fournir lui-même des certificats authentiques. Il s'en défendit, allégeant qu'après tout, on ne l'accusait que d'être passé à l'étranger, qu'il défiait qu'on rencontrât son nom inscrit sur la liste des émigrés, tenue avec soin par les bureaux du comité de législation. À ceci, on fit une réponse qui mérite d'être citée textuellement. Il est vrai que le citoyen Rougemont n'est pas sur la liste, ni sur le premier, le deuxième ou le troisième supplément. Mais beaucoup de véritables émigrés ne sont pas portés sur cette liste, tandis que beaucoup de citoyens qui n'ont jamais émigré y sont inscrits. Cette réponse donne un aperçu de ce qu'était l'administration dont la Révolution avait doté la France, si l'on songe surtout que cet état des émigrés faisait foi pour la confiscation des biens, la prison, l'échafaud et autres pénalités réservées à ceux qui y avaient leur nom. En somme, la dénonciation de Guffroy prévalut et Rougeville fut, par un jugement daté du 24 fructivore de l'an 3, écroué à la conciergerie en attendant qu'il pût justifier de ses résidences depuis le 10 août à l'aide de certificats en bonne et due forme. Que fit-il en prison ? D'abord, et comme on pouvait s'y attendre, il essaya d'en sortir. Il accabla de pétitions les comités, les représentants, les bureaux, faisant valoir qu'on l'avait enfermé dans un cercle vicieux. Tant qu'il serait détenu, il lui était impossible de se procurer les attestations exigées, et tant qu'il ne les produirait pas, il resterait détenu. Il suppliait qu'on le laissât sortir, fût sous la surveillance continuelle de 2 gendarmes, s'engageant à se représenter à la maison de justice s'il ne parvenait pas à réunir les pièces parfaitement en règle. L'argument avait sa valeur, mais l'affaire était si épineuse qu'elle languit dans les cartons. Le régime conventionnel prit fin, le directoire lui succéda, Rougeville transféré à Sainte-Pélagie ne cessait de se lamenter, les bureaux s'obstinaient à se renvoyer la question, 1 an passa ainsi. Enfin, le directoire exécutif rendit, le 8 germinal de l'an 4, un arrêté portant que Joseph Gouze, dit Rougeville, se trouvant prévenu d'avoir émigré sans néanmoins que son nom fût porté sur aucune liste, mais que ce défaut d'inscription ne pouvant le dispenser de prouver sa résidence non interrompu en France depuis le 10 mai 1792, que la loi du 25 Brunner de l'an 3, prescrivant formellement la marche à suivre à l'égard des détenus qui ont besoin de certificats de résident et réglant cette marche de manière à les laisser en état de détention pendant que se font les diligences nécessaires pour l'obtention de ces certificats, il n'appartenait pas au directeur de rendre, même provisoirement, la liberté aux 10 Rougeville. Faut-il voir dans cette rigoureuse mesure la main de Gufroy? Il était encore influent en 1796 et, comme on le verra, il n'avait pas oublié Rougeville. Celui-ci, comprenant d'où venait le coup, voyant s'écrouler son échafaudage si habilement élevé, jura, en étouffant de rage, qu'il se vengerait et d'une manière éclatante. Il devait tenir son serment. En attendant, il se créait des occupations. D'abord, il tenta de mettre à profit son inaction forcée en traçant le récit de ses malheurs. On s'arrachait alors une brochure de Journiac de Saint-Méard, l'un des survivants du massacre de l'abbaye, intitulé « Mon agonie de 38 heures ». Rougeville voulut faire mieux. Il intitula son récit « Mes 40 000 heures d'agonie », suivi de différents faits remarquables et extraordinaires par l'auteur des œillets présentés à la reine dans la prison de la Conciergerie à Paris. Mais le régime de la prison n'excitait sans doute pas suffisamment sa verve, car il nous semble bien qu'il n'écrivit jamais de cet ouvrage que le titre, assez ronflant du reste. Il entretenait d'ailleurs une correspondance d'un genre plus tendre avec une personne qui ne nous est indiquée que sous le prénom d'Agathe. Ces lettres, en possession desquelles il rentra plus tard et qu'il conserva, sont pour la plupart écrites d'une écriture très serrée sur un papier buvard. Nous en avons cependant déchiffré quelques phrases. Les larmes de repentir ou de reconnaissance sont toujours bien séantes aux yeux des personnes honnêtes, de même que les soupirs à la bouche d'un amant vertueux et infortuné. Je pleure et je vous aime. Je suis loin de me réjouir des victoires des puissances. Comme aimant ma patrie, je ne veux point la voir soumise à un joug étranger. Et puis il faisait des vers. Chanson que j'ai fait imprimer à la Conciergerie sur l'air des visitantines. Amis qui souffraient pour l'honneur, dont l'infortune est le partage. Ah, c'est assez dans le malheur, quand on ne perd pas le courage. Nos oppresseurs et nos tyrans ne craignent que notre constance. S'il faut encore souffrir longtemps, ah, ne perdons pas l'espérance. Il est un Dieu, vous le savez, cette assurance nous console. Malgré vous, vous le redoutez, cette vérité vous désole. Et si le crime a des succès, il ne connaît pas la constance. La vertu ne change jamais. Ah, ne perdons pas l'espérance. On peut encore citer cette complainte, écrite à n'en pas douter par Rougeville, dans laquelle il donne la parole au dauphin emprisonné au temple. Complainte que le dauphin fit dans la tour du temple, sur l'air du troubadour béarnais. Vous qui me faites languir dans une douleur extrême, ô ciel, pourquoi me haïr? Français, malgré tout que j'aime, quoi, le fils du bon Louis est prisonnier dans Paris. Vous avez donné la mort à votre ange tutélaire, vous me poursuivez encore d'avoir eu Louis pour père. Quoi, le fils du bon Louis est prisonnier dans Paris. Ah, vous l'avez vu mourir dans la paix de l'innocence. Son cœur qui sut vous chérir me défendit la vengeance. Quoi, le fils du bon Louis est prisonnier dans Paris. Que craignez-vous donc de moi? Mon pouvoir a-t-il des chaînes? Ou si j'étais votre roi, augmenterais-je vos peines? Quoi, le fils du bon Louis est prisonnier dans Paris. Il était resté d'ailleurs en communication avec quelques amis mystérieux. Le parti royaliste, nous l'avons dit, relevait la tête sans oser pourtant combattre ouvertement le directoire. Il est certain que dès que le dauphin Louis XVII fut mort, son successeur Louis XVIII entretint à Paris et dans le reste de la France des agents nombreux. Rougeville ne devait pas être oublié, et c'est sans doute l'un de ses protecteurs inconnus qui lui adressa le billet suivant, où ses services passés sont rappelés en termes voilés. « Vous avez voulu le bien grandement, vous avez été au moment de le consommer. Votre secret au dehors est gardé, rien au monde ne l'a violé ni violera. Vous paraissez encore tendre à le réaliser. En ce cas, sauvez, sauvez qui n'a pas voulu le mal, et on vous garantira avec autorité. » Point d'interrogation. Cette lettre énigmatique se termine par une sorte de signe de convention. Rougeville conspirait-il donc, même étant sous les verrous? En tout cas, il avait au dehors des amis influents qui ne l'abandonnaient pas, et sans doute pouvait-il leur être utile, car ils firent tout ce qui était humainement possible pour obtenir sa liberté. Ce fut le beau temps de Rougeville. Il était devenu un personnage assez important pour que son sort fût débattu au conseil même des 500. Cette assemblée comptait au nombre de ses membres un député nommé Couchery, dont la figure, s'il était possible de l'étudier d'une façon complète, ne serait pas sans doute moins intéressante que celle de Rougeville. Un lien mystérieux unissait ces deux hommes, lequel, sans nul doute, il s'était trouvé mêlé au même complot, il poursuivait le même but, il faisait partie de la même association secrète. Couchery, en effet, depuis le commencement de la Révolution, avait conservé intacts ses sentiments royalistes, et s'il les avait parfois dissimulés, c'était afin de mieux servir la cause à laquelle il avait voué sa vie. Né le 4 avril 1768 à Besançon, il avait émigré en Suisse, à l'époque où il était encore permis de croire que l'armée de Condé était appelée à jouer un rôle actif dans les événements. Mais ayant vite compris l'inanité de cet espoir, Couchery rentra en France avant la promulgation du décret qui, mettant les émigrés hors la loi, réduisit à néant leurs influences. Il s'agita, se mit à la tête du parti réactionnaire, fut nommé procureur de la commune de Besançon et en cette qualité signa l'adresse de protestation contre le coup d'État du 31 mai. Signalé comme suspect, il disparut pendant la Terreur. Sans doute était-il de ceux qui cherchaient à sauver la reine et le dauphin, et nous avons quelques raisons de penser que c'est à cette époque qu'il fit la connaissance de Rougeville. Élu député au Conseil des 500, il s'y posa en royaliste militant, prenant chaque jour la parole pour dénoncer les menées des derniers montagnards, se dépensant en démarches au profit des émigrés et des victimes de la Terreur, n'hésitant pas à se faire avocat de tous les partisans de la royauté. « On craint, disait-il à la tribune, on craint les vérités courageuses qu'ils font circuler. Leurs vérités, vous devez les entendre si vous n'êtes pas des tyrans. Leurs calomnies, vous devez y répondre par votre conduite. » C'est en ce législateur courageux que Rougeville trouva un défenseur. Il parvint facilement à l'intéresser à sa cause et à la séance du 21 prairial de l'an 5, Couchery monta à la tribune. Nous rapportera-t-on ici, d'après le Moniteur, les principaux passages du discours qu'il prononça en cette circonstance. Les faits qu'il y rappelle sont connus, mais la façon dont ils sont présentés ne laisse pas que d'être assez singulière. « Le citoyen Rougeville, dit Couchery, fut dénoncé comme émigré au comité de sûreté générale par le citoyen Guffroy, ex-conventionnel. Sa dénonciation suffit pour faire incarcérer Rougeville. En vain, celui-ci disait au comité souverain, « Il n'y a contre moi qu'un seul dénonciateur qui n'apporte d'autres preuves qu'un aveu qui le prétend lui avoir été fait par moi. » Comment, d'ailleurs, aurais-je pu commettre une semblable indiscrétion avec Guffroy? N'y a-t-il pas une réputation qui effrayerait le malheureux le plus confiant? Jugez ses motifs. Il fut pendant 20 ans l'homme d'affaires de mon père. Il est encore le débiteur de ma famille. Son intérêt personnel l'entraîne évidemment à l'odieuse démarche qu'il fait contre moi. Ses raisons échouèrent contre le crédit de Gufroy et la faveur qu'on accordait encore alors à toute accusation intentée pour faire d'immigration. Rougeville fut renvoyé devant le tribunal criminel du département de la Seine par arrêté du comité de sûreté générale. Et depuis 23 mois, il réclame sa liberté dont il a été privé au mépris des lois et contre les formes établies par elles. Ce renvoi fait, avec tant de légèreté, à un tribunal qui n'intervient à ces sortes d'affaires que pour appliquer la peine de mort, semblait présager à Rougeville un sort encore plus affreux que la détention. Mais le tribunal, ne voyant qu'un seul dénonciateur, se garda bien de commencer une procédure. Il se contenta de renvoyer l'accusé par devant l'administration du département qui ne l'inscrivit point sur la liste des émigrés et cependant déclara qu'il produirait les certificats exigés de ceux dont le nom y est porté. Et pour lui en donner la facilité, le département de la Seine lui accorda pour un mois une liberté provisoire, c'est-à-dire la permission de sortir de prison sous la garde de deux gendarmes. Cet arrêté, déjà assez rigoureux, parut au citoyen Merlin, alors ministre de la Police, le fruit d'une complaisance coupable pour les émigrés. Il établit que Rougeville devait se faire représenter par un fondé de pouvoir et fit annuler le décret par le directoire exécutif. Gufroy déclare d'abord que Rougeville passe constamment pour émigré. Rougeville, cependant, n'était sur aucune liste. Il en a fourni le certificat. Qu'il était garde de monsieur, ce titre ne prouve ni ne fait présumer l'émigration. C'est un prétexte dont a pu s'emparer la rage des bourreaux de la France pour faire des suspects. Il ne devait pas déterminer un comité établi après la chute de la tyrannie. Qu'il a été présenté avec Michonny un œil à la reine. Cette accusation n'a jamais été prouvée. C'est une fable à laquelle on était dans le temps intéressé à donner quelque consistance. Elle a pu servir de motif pour persécuter Rougeville, mais elle ne prouve pas le délit dont on l'accuse. Ici, Couchery fait l'énumération des différents domiciles que Rougeville prétendait avoir occupés depuis le mois d'octobre 1789 jusqu'à son arrestation. Puis il termina par un argument tout puissant sur toutes les assemblées. « Représentant, s'écria-t-il, songez que les listes d'émigrés sont toujours ouvertes, qu'aujourd'hui, qu'à l'instant même, malgré la confiance dont vous êtes honoré, une administration effrayée, séduite, peut y inscrire vos noms et vous mettre en état de prévention. Hâtez-vous donc de prouver par un acte de justice que dans cette sorte d'affaire, la dénonciation ne suffit pas pour déclarer qu'un individu est réputé émigré, ni pour provoquer son arrestation. » Couchery propose d'annuler l'arrêté de comité de sûreté générale. On demande à aller aux voix. D'autres membres réclament l'impression. Le moine, vous voulez voter en connaissance de cause et je vous atteste qu'une grande partie de l'Assemblée n'a pas entendu le rapport. Vu la mauvaise disposition de la salle, je demande l'impression et l'ajournement. Duplantier. Puisqu'il s'agit d'arracher à la persécution un homme innocent, je me félicite d'avoir l'organe assez fort pour prouver qu'un banc à l'autre, que le citoyen Rougeville n'a jamais émigré. On n'a pas entendu les pièces. Je les relirai. Quand il s'est agi d'accorder une pension à la veuve Bazire et d'autres décrets de cette nature, vous avez déclaré d'urgence. Il faut déclarer l'urgence aussi, puisqu'il s'agit de sauver un innocent. L'urgence est déclarée et le projet adopté. Ainsi, Couchery excusait Rougeville d'avoir fait partie des gardes de monsieur, ce qui était faux, nous l'avons vu, et il traitait de fable inventée à plaisir l'histoire de l'œillet, le sel peut-être des nombreux incidents de la vie de Rougeville dont l'authenticité ne puisse être mise en cause. Qu'en conclure ? deux choses, à notre avis. D'abord, que Rougeville était doué d'un tel aplomb qu'il était parvenu, même auprès de ceux qui le connaissaient le mieux, à imposer comme fait indubitable les imaginations de son esprit inventif. Dès cette époque, et pour tout le monde, il avait été noble, chevalier de Saint-Louis, garde de monsieur, etc. On peut en inférer ensuite le désordre qui régnait dans tous les services administratifs, le chaos qui avait pris dans toutes les cervelles la place de la calme raison, au sortir de la période conventionnelle. Comment ? Voilà un député qui, dans un beau mouvement d'indignation, élève la voix en faveur d'un conspirateur avéré, par ignorance des faits ou pour une autre cause. Peu importe. Il nie ce qui est vrai, admet ce qui est faux, c'était son droit d'avocat. Mais est-il croyable que parmi les 500 hommes politiques qui l'écoutent, tous mêlés aux événements depuis 5 ans, il ne s'en trouve pas un seul pour établir la vérité de faits si récents, pas un seul pour demander au moins un supplément d'informations sur les agissements du conspirateur qu'il s'agit de gracier. L'honnête député Lemoine se plaint seulement de n'avoir pas bien entendu, vu la mauvaise disposition de la salle. Quoi qu'il en soit, Coucherie eut gain de cause, et peu de jours après, le 29 prairial, le directoire exécutif rendait un décret ratifiant le vote des 500. Rougeville était à l'apogée de sa gloire et au comble du bonheur. Les grands corps de l'État s'occupaient de lui, la tribune aux harangues retentissait de ses exploits, son nom était imprimé dans les journaux. Il accepta avec beaucoup de dignité ses honneurs, depuis si longtemps ambitionnés. Par une lettre très courte et d'un ton assez hautain, il remercia le directoire et le conseil. Puis, tout aussitôt, il fit imprimer son appel à ses concitoyens, où il racontait toute son histoire et où il citait, au long des pièces originales de Leuillet, ce qui ne dut causer qu'un demi-plaisir à Coucherie qu'il avait nié. Fixons en quelques mots le sort de ce député qui vient de jouer dans notre récit un rôle épisodique. Condamné à la déportation après le 18 Fructidor, il s'enfuit en Allemagne, d'où on le rappelle en l'an 8. Ses opinions royalistes empêchèrent Bonaparte de l'employer et il émigra en Angleterre où il devint l'un des principaux collaborateurs de Pelletier dans la rédaction de L'Ambigu. Il eut le bonheur de voir le retour des Bourbons et mourut en octobre 1814. Quant à Gufroy, écrasé par la virulente apostrophe de Coucherie, devenu l'objet des mépris de tous les honnêtes gens, ce qui ne le gênait guère, il se réfugia à Arras, où pendant quelque temps il crut bon de garder le silence. Mais il avait envie d'une place et il l'obtint. Le gouvernement nomma le Rougif chef adjoint du ministère de la Justice. C'est dans cette situation que le personnage mourut en 1801.